L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'atelier numérique sur BFM Business. L'atelier numérique, c'est chaque samedi 16h-18h, vos deux heures, votre dose d'actualité high-tech. On est ravis de vous retrouver avec autour de ces micros dans ce studio, Sophia, Cécile, Constance, Guillaume qui est là. Tout à l'heure, on retrouvera Lila Megraoua qui nous rejoindra, avec qui nous allons parler de la tendance des chatbots en compagnie de nos invités, mais aussi de la médecine de précision. Notre dossier de l'atelier tout à l'heure, l'impact de la robotique et de l'intelligence artificielle sur les véhicules autonomes. Notre World Tour, tout à l'heure, on parlera du mobile qui devient un vrai moyen de paiement à l'étranger. L'actualité de 01net.com avec Eric Le Bourlou qui sera là, le crash test d'Antoine. Avec Guillaume Degroisse, nous parlerons de chatbots tout à l'heure. Silicon Carnet, Cyber Gadget. On n'oublie pas aussi Pauline Kampner qui est avec nous depuis San Francisco. Salut Pauline.
Bonjour.
Et bien évidemment, on va commencer cet atelier par l'actu vue par toute l'équipe de l'atelier. Et on va commencer par Cécile Puardi, tiens, cette semaine. Cécile, votre petite news en ce samedi après-midi.
Alors, ma news, aujourd'hui, je vais vous parler des packaging de demain, François.
Ah.
Les packaging des produits de consommation seront peut-être bientôt dotés de petits écrans interactifs. C'est les chercheurs de l'université de Sheffield et la société Novalia qui ont développé une nouvelle façon d'afficher de l'information sur les emballages. Donc pour ce faire, ils ont imprimé des pistes électroniques sur du papier. Ils l'ont fixé à un display LED grâce à un adhésif qui conduit l'électricité. Cette technologie se construit à bas coût pour rester accessible aux fabricants, évidemment, et elle n'en est qu'à ses débuts pour le moment, des supports de messages simples, mais pas plus. Cependant, les chercheurs pensent déjà à de nouvelles fonctions qu'ils pourraient intégrer à ces écrans, par exemple un chronomètre. Ça pourrait être utile pour les produits avec des produits de cuisine, par exemple, avec de la cuisson. La prochaine étape est de pouvoir imprimer cet écran sur d'autres supports, notamment le plastique. Et avec cette nouveauté, on peut vraiment ouvrir l'horizon des possibilités, et pourquoi pas en termes d'interaction de consommateurs et de marques, et en termes de communication pour les entreprises.
Très bien. On retrouve Guillaume Degroisse maintenant.
Alors, moi, cher François, j'avais envie de vous parler du futur du tatouage.
Ah, ça, c'est bien.
Eh oui. Et le futur du tatouage, eh bien, peut-être qu'en fait, c'est l'incrustation de LED dans la peau.
De LED qui
c'est ça,
lumineuse, en fait.
Les LED, exactement.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
que l'université de Tokyo a trouvé
tu peux
comment...
éteindre ton tatouage, s'il te plaît, tu fais trop de lumière. En fait,
ouais,
ça, on va se retrouver
cinéma,
avec ce genre de discussion.
Ça va être compliqué.
Ah, oui, oui.
Et donc, nos amis de l'université de Tokyo, qui sont jamais en reste d'une super technologie un peu amusante, ont trouvé comment incruster de la lumière dans la peau. Et ils ont créé un display qui est ultra flexible, qui est minuscule, donc qui est moins épais que le cheveu humain, etc., etc. C'est des micro-LED. Et bien entendu, ça apporte de la lumière et ça s'éteint. Et oui, on pourra éteindre son tatouage sous une impulsion électrique. Et donc, voilà, on sait que notre corps est plein d'impulsions électriques. Alors... Au-delà du gadget
oui,
pur,
ça a l'air impressionnant.
C'est impressionnant, c'est amusant parce qu'on se dit qu'on va pouvoir se faire des tatouages qui clignotent, etc. Mais ce qui est intéressant dans cette logique qu'on appelle la smart skin, hein, la peau intelligente, la peau connectée, c'est que finalement cette technologie, elle produit moins de chaleur, elle brûle pas la peau, elle utilise moins d'énergie, elle résiste à la météo, au mouvement, etc., etc., etc. Donc finalement, elle est relativement mature, maintenant c'est notre usage qui ne l'est pas encore, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que au-delà du tatouage, ces LED, elles vont pouvoir afficher des messages. Et donc ce display pourrait à un moment remplacer les trackers d'activité, tous les objets connectés liés au sport, à la santé, etc. Ça pourrait aussi être un moyen de remplacer, vous vous souvenez du tam-tam et du tatou ? Eh bien, ça pourrait être un moyen de recréer hein, directement sur la peau.
Non, je reçois un SMS sur la peau, carrément.
Exactement, c'est-à-dire que...
Ta classe.
Ouais, mais...
Et tout le monde pourra le lire.
Ah oui, ça c'est sûr. Sauf s'il est à l'endroit où il n'y a que moi qui le vois. Par exemple,
avec
les
rôles,
vous voyez, si je suis comme ça, là...
Ouais, c'est pas complètement pratique,
non,
là,
c'est
ce
pas
que
pratique.
Vous êtes en train d'imaginer.
Non, ça c'est sûr.
Mais donc, du coup, c'est quand même intéressant de voir les évolutions de technologie, au-delà du tatou, qui est, à mon avis, anecdotique, de se dire que, finalement, peut-être que demain, dans cette logique d'homme augmenté, on aura peut-être des messages qui arriveront directement au niveau de la peau. Ça, c'est pas mal, je trouve.
Oui. Bon, c'est pas mal ou ça fait un peu peur quand même, Guillaume. Non, bon, on verra bien. Direction San Francisco avec Pauline Kampner.
Oui, alors déjà, moi, je suis assez agréablement surprise d'entendre Guillaume parler de tatouage, comme quoi la vie est un perpétuel étonnement.
Merci, ma chère Pauline.
Mais parce que vous n'avez pas vu depuis un moment, il est complètement tatoué maintenant.
des filles à la tête.
Clairement. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Moi, je vais vous parler de start-up en résidence, un concept fort intéressant. Alors, on connaît l'artiste en résidence, hein, celui à qui on a donné un super espace pour qu'il favorise sa créativité et qu'il élabore des super spectacles ou nous peigne des très beaux tableaux. Et bien, à San Francisco, on crée les entrepreneurs en résidence. Alors, récemment, mardi dernier, 13 startups ont été sélectionnées pour travailler avec 4 villes de Californie, dont San Francisco, Oakland, San Leandro et Sacramento. Et alors, ces startups sont sélectionnées pour travailler main dans la main avec les employés de la municipalité pour créer des solutions innovantes. Et donc, elles sont hébergées 4 mois d'ailleurs. Et parmi elles, on a des solutions très sérieuses comme Decision Patterns, qui permet en fait de créer des outils d'analytics très poussés afin de mieux maîtriser les finances de la ville ou mieux prévoir toute une partie prédictive. Mais on voit aussi des choses assez anecdotiques. Je pense notamment à Coyote Watch, une startup qui travaille avec la ville de San Francisco. Donc pour ceux qui sont déjà allés à San Francisco, c'est vrai que les habitants sont assez connus pour aimer les animaux domestiques, et en particulier les chiens, les petits chiens d'ailleurs, ils sont partout. Et donc Coyote Watch permet en fait de reporter en temps réel la présence de coyotes. Parce que si vous ne le saviez pas, ici, les animaux domestiques, les chats sont menacés par les ratons laveurs dans les jardins, et les chiens par les coyotes, notamment les chihuahuas. C'est une catastrophe. Et donc Coyote Watch va servir aux habitants et aux employés de la municipalité de reporter en temps réel la présence de coyotes dans la ville, et donc que tout le monde soit content et que les chiens continuent de vivre et de surpeupler la population de San Francisco. En tout cas, c'est un joli programme qui a été financé à hauteur d'un demi-million de dollars par le secrétariat d'État au commerce. Et c'est un très bel exemple, encore une fois, de collaboration entre les municipalités et les startups, ce qui est quand même monnaie courante ici aux États-Unis.
Merci Pauline, retour à Paris avec encore une chroniqueuse, c'est Sophia qui est avec nous, Sophia Kadiri. Votre petite news Sophia aujourd'hui?
Alors moi ma petite news, c'est une loi pour lutter contre l'insécurité routière, mais avec un petit aspect tech. L'idée c'est de se demander comment savoir si un automobiliste a utilisé son téléphone en conduisant. Et alors les législateurs de l'État de New York ont peut-être trouvé une solution. Ils souhaitent permettre aux policiers d'utiliser de petits appareils capables de contrôler l'activité des mobiles des conducteurs. L'idée, c'est qu'après l'alcotest, là, il y a le textilizer. Donc, en fait, le policier scanne le téléphone, mais uniquement pour savoir s'il a été utilisé pour envoyer des textos, passer ou répondre à un appel au volant. En revanche, il obtient aucune donnée personnelle comme ça. C'est simplement pour savoir si le téléphone a été utilisé. Et les policiers n'ont pas non plus l'intention d'utiliser cet outil systématiquement. Le but, c'est de s'en servir pour déterminer si un accident est lié à l'utilisation du téléphone portable. Et c'est l'entreprise israélienne Cellebrite qui est à l'origine de cette innovation. Vous savez, d'après les rumeurs, c'est celle qui aurait aidé le FBI à débloquer les iPhones liés à l'attentat de San Bernardino de décembre 2015.
Mm-mm. Alors qu'en fait, il paraît que c'est pas eux. Je pense que c'est une autre boîte finalement qui s'en est occupée, mais enfin c'est pas grave.
Oui, on sait pas trop, mais les rumeurs disent que c'est peut-être elle. En tout cas, leur initiative là ne fait pas l'unanimité. Parmi les critiques, certains rappellent que les policiers peuvent déjà avoir accès à ce type d'informations via le classique mandat de perquisition, et aussi que rien ne presse, parce que contrairement aux effets des drogues ou de l'alcool qui disparaissent après quelques temps, les activités sur un téléphone portable restent détectables.
Très bien, merci beaucoup. Constance Guyon.
Oui, alors je vais vous parler moi d'un système d'identification un peu atypique qui va peut-être vous permettre de rentrer au Pentagone.
Ah, c'est franchement perso, je sais pas ce que vous en pensez Guillaume, mais c'est mon rêve de rentrer au Pentagone comme ça.
C'est sûr.
Je sais que vous étiez sur la liste des invités.
Voilà, c'est vrai. Après la NASA, en effet, oui.
En fait, c'est des chercheurs de l'université de Binghamton aux États-Unis qui ont mis au point un système qui analyse les ondes cérébrales. Donc ils ont fait un test sur 50 personnes avec un casque encéphalogramme en leur montrant 500 images différentes. Alors ça pouvait être aussi bien des images d'Anne Hathaway ou alors d'une tranche de pizza ou alors un mot n'importe lequel dans le dictionnaire.
C'est vous qui avez choisi ces exemples ou c'est écrit ?
Non, c'est vraiment les exemples. Ah, Anne Hathaway a été montrée aux participants, la tranche de pizza aussi. J'aime les deux. Hein, mais
non, mais c'est pour ça, je sais bien, mais je pensais que c'était un exemple que vous aviez trouvé. Non, d'accord.
Et en fait, voilà, les ondes cérébrales de chaque participant sont enregistrées et elles permettent ensuite au système de reconnaître avec une précision de 100% la personne qui a émis les ondes. Parce qu'en fait, ils avaient fait une étude similaire l'an passé avec seulement des mots. Et là, la précision n'était que de 97%. Avec l'analyse des ondes cérébrales. Ce qui posait quand même un problème de sécurité pour rentrer par exemple au Pentagone ou dans des grosses centrales nucléaires.
Oui. Alors, si on fait partie des 3% où ça marche pas, c'est embêtant.
Ça peut être vraiment embêtant. Et un gros avantage de ce système, comparé par exemple aux empreintes ou à l'analyse de la rétine pour l'identification, c'est que celles-ci peuvent être, peuvent être détournées par des fraudeurs. On sait par exemple en mettant un peu de gélatine sur le bout du doigt ou en mettant une lentille. Alors que là, si par exemple on vous met un revolver sur le crâne et on vous montre des images d'anaphorie et de pizza, sous l'effet du stress, vous n'allez pas émettre la même réponse en termes d'onde cérébrale. Donc c'est vraiment pas piratable du tout. Et ça vous est propre, votre point de vue sur anaphorie et la pizza.
C'est intéressant, dites donc.
En effet.
Merci Constance. On retrouve Cécile maintenant.
Alors, je vous parle maintenant de quelque chose qui n'est pas tech, mais plutôt d'une stratégie d'entreprise au niveau d'une application mobile. C'est LinkedIn, le réseau social professionnel, qui lance son application réservée aux étudiants. Alors, pourquoi, vous allez me demander? Il y a déjà tout ce qu'il faut sur le site.
Mais pourquoi, alors?
Quand on débarque fraîchement sur le marché du travail, cher François, ou plutôt le marché du stage parfois, LinkedIn peut être intimidant. Il y a de nombreux profils en anglais, des expériences à n'en plus finir, des relations impressionnantes, bref, de quoi inquiéter les jeunes. Or, ces jeunes, ils représentent 40 millions d'inscrits sur le site et sont les utilisateurs finalement de demain de LinkedIn.
Bien sûr, parce qu'après ils vont avoir un vrai job.
Exactement. Mais il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, via Deo, DoYouBuzz et de nouveaux modes de recrutement comme Snapchat. Vous savez, l'application qui envoie des photos éphémères ou des vidéos. Et donc, il est stratégique pour LinkedIn de fidéliser cette cible. Donc, l'application LinkedIn Student ressemble à un Tinder, tout simplement, avec des slides qu'on peut glisser sur le côté ou taper pour en lire davantage. Chaque slide va recommander une entreprise, un poste, un ancien élève de son école qui correspond au parcours de l'étudiant. Tout ça avec des articles et des contenus susceptibles d'intéresser les étudiants. Et également, quelles sont les sociétés qui, en ce moment, recrutent dans votre école? Tous ces contenus sont sélectionnés, mis de côté. On peut y avoir accès ultérieurement et contacter des profils qui nous auront été suggérés afin de construire un parcours et de bénéficier de conseils des anciens, comme vous par exemple, François.
Merci
beaucoup.
C'est
pas mal quand même cette idée. Hein, c'est que LinkedIn, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se dire que c'est pas mal d'aller chercher directement les jeunes pour être sûr qu'ils adhèrent à LinkedIn et à les fidéliser. Donc c'est assez malin comme stratégie marketing.
Quand vous dites ancien, pourquoi vous me regardez comme ça?
Antoine Cyr n'est pas là du coup.
Ah, d'accord.
Donc c'est pour ça.
Vous vous êtes dit, ok, très bien, super. Tiens, vous avez remarqué quand vous avez parlé de Snapchat, les yeux de Constance se sont complètement illuminés, hein,
parce que
c'est quand même la Snapchateuse de toute l'équipe.
Les cérébrales se sont déployées.
Mais là, d'un coup, on voyait plus les parts de pizza, hein, on voyait Snapchat en grand. Et oui, puisque Constance est une grande utilisatrice de Snapchat. Guillaume.
Alors, je vous ai parlé de l'homme augmenté, du futur, du tatouage LED, etc. Et là, je vais vous parler aussi de futur. Je vais vous parler carrément de robots.
En toute simplicité,
voilà,
oui,
exactement.
Bien sûr.
Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on s'était parlé des robots qui se faisaient licencier en Chine. Donc ça c'était intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, François, mais lorsqu'il y a eu NetExplo au mois de février, l'atelier avait sélectionné le projet Todai de l'Université de Tokyo pour son robot qui passait l'équivalent du bac à Tokyo. Donc finalement, on parle de robot qui travaille, on parle de robot qui va passer le bac. Et bien maintenant, Pepper, le petit robot trop mignon d'Aldébaran, il a été accepté dans un lycée de la province de Fukushima.
Tiens.
Alors, donc, Pepper va au lycée. Et ce qui est intéressant, c'est que le principal du lycée a expliqué que c'était plutôt une bonne chose parce que ça allait permettre aux étudiants de se familiariser au contact des robots, à l'intégration du robot dans leur vie quotidienne et bien entendu, au sens plus large, à une vie beaucoup plus digitale. Alors ce qui est intéressant là-dedans, au-delà du côté d'interaction entre les étudiants et le robot, c'est que le robot va aussi participer comme assistant pour des cours d'anglais, bien entendu pour des cours de robotique, hein, c'est assez évident. Alors j'aimerais bien imaginer Pepper en train de se démonter lui-même et d'expliquer comment se remonter. Bon, c'est un peu futuriste.
Le problème, c'est que s'il se démonte trop, il n'arrivera plus à se remonter.
Ouais, exactement.
C'est ça le souci.
Mais donc du coup, ça peut devenir un exercice intéressant pour les élèves pour remonter eux-mêmes leur Pepper. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais la spécificité aussi de Pepper, vous savez, c'est que c'est un robot qui est équipé de nombreux capteurs pour détecter les émotions humaines. Mm-hmm. Et donc, il est capable de lire sur les visages si un élève est triste, si il est malheureux, etc. Et donc, ce qu'explique le principal du lycée, c'est que Paper va aussi pouvoir permettre aux jeunes qui ont peut-être du mal à se sociabiliser de ne pas être exclus, d'être aussi parfois, quand ils ont des moments un peu plus difficiles, de trouver auprès de Paper un petit peu de réconfort. Oui. Donc finalement, ce robot, il va servir à tout. Et ce qui est intéressant, c'est que en réalité, il y en a déjà 1000 hein, qui ont été embauchés par Nespresso pour aider les clients à trouver leur machine. Donc en fait, finalement, Paper va à l'école, mais c'est pas lui qui va apprendre des trucs.
Non, pas encore. On va terminer peut-être par Constance.
Oui, alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour tous les conducteurs qui nous écoutent. Peut-être que bientôt, ils n'auront plus besoin de s'arrêter au feu rouge. Alors, je ne vous dis qu'il va falloir enfreindre le code de la route.
Parce que là, vous risquez quand même de provoquer quelques incidents, voire accidents, Constance.
En fait, c'est une équipe...
Pas pour tout de suite.
C'est pas pour tout de suite. Et pour l'instant, voilà, c'est vraiment le résultat d'une équipe internationale des chercheurs du MIT et de l'École Polytechnique de Zurich qui pense qu'avec l'arrivée de la voiture autonome, bientôt, le feu rouge va disparaître de nos routes. Alors, en fait, les voitures vont être munies de capteurs qui leur permettront de communiquer entre elles. Mais selon eux, il y aura aussi des centres de gestion qui vont être positionnés au carrefour routier.
D'accord.
Et qui vont, en fait, établir l'ordre de passage selon la priorité, afin d'avoir vraiment le trafic le plus fluide possible. C'est des petits algorithmes qui vont calculer tout ça. Et selon les chercheurs, avec cette façon de procéder, ce serait deux fois plus efficace pour tout ce qui est fluidité. Il y aurait deux fois moins de bouchons dans les villes. Donc ça peut être assez intéressant aussi en termes d'environnement, parce qu'on sait que si la voiture n'a pas à s'arrêter et qu'on peut rouler de manière fluide, on va aussi dégager moins de gaz à effet de serre.
Et puis ça ferait des économies, vous imaginez, ça coûte cher un feu rouge.
Ça coûte cher.
En plus.
Après, un centre de gestion aussi pour piloter la fluidité, ça doit coûter aussi bonbon, si je puis dire.
C'est vrai. Merci beaucoup.
Merci.
On revient dans un instant pour la suite de cet atelier avec le Silicon Carnet et Pauline Kantner qui revient et les gadgets d'Antoine Cyr, bien entendu. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans un instant, la sélection de gadgets d'Antoine Cyr dans cet atelier numérique sur BFM Business. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet avec Pauline Kantner.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Rebonjour François. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Boston, qui est une vraie smart city ici aux États-Unis, et en particulier de son projet intitulé City Score, donc littéralement le score de la ville. Donc, de quoi s'agit-il? Déjà, il s'agit d'un chiffre qui est révélateur de la performance globale de la ville. Un chiffre égal à 1 signifie un score idéal, que la ville a donc atteint ses objectifs. Un score inférieur à 1 signifie que la ville n'a pas atteint ses objectifs, et supérieur à 1, qu'elle a réussi à atteindre ses objectifs, qu'elle les a même dépassés. Alors au total, le City Score, il compulse plus de 24 données issues de différents départements de la municipalité. Et il prend en compte des informations aussi variées que le temps qu'il faut à une ambulance pour arriver en moyenne sur le lieu d'un accident, le nombre d'abonnés à la bibliothèque, le taux de fréquentation des salles de classe et enfin la réactivité des services municipaux à combler les nids de poules sur la route. Donc imaginez-vous, c'est assez vaste. Et cet indicateur, à qui il se destine? D'abord aux haut placés, aux élus de la ville, à commencer par le maire, monsieur le maire, Martin Walsh, à qui on doit effectivement ce projet. L'idée derrière le City Score, c'est d'avoir un indicateur qui nous permette de réajuster des décisions budgétaires, par exemple. Monsieur Martin Walsh aurait, par exemple, décidé d'allouer plus de budget à la santé pour pouvoir avoir plus d'ambulances, étant donné un score assez faible enregistré au cours des derniers mois. Et ce projet, il s'inscrit véritablement dans une volonté de Boston d'être une smart city. En 2011 déjà, elle figurait parmi les 4 premières villes des États-Unis à accueillir le programme Code for America. Elle est aussi très proche géographiquement de très grandes universités comme le MIT et Harvard, hein, ce qui lui permet de collaborer beaucoup avec l'académique. C'est aussi une ville qui s'est collaborée avec les startups. Encore récemment, elle s'est associée avec Waze, l'application de navigation de Google, pour résoudre des problèmes d'encombrement du trafic routier, ce qui est assez commun ici aux États-Unis dans les grandes villes. Par ailleurs, elle a aussi une très belle philosophie qui est une philosophie de collaboration. Elle partage énormément ses bonnes pratiques. Elle organise chaque année un sommet avec beaucoup de villes alentours qui peuvent être des villes finalement de taille assez restreinte avec qui elle échange sur ses best practices. Alors vous allez me dire, et les citoyens dans tout ça? Parce que c'est vrai que le City Score s'adresse principalement aux élus de la ville. Et bien en réalité, les équipes qui sont à l'origine du City Score, qui est en fait une équipe de data scientists, donc des gens qui sont vraiment, donc cœur de métier c'est l'analyse de la donnée, sont déjà en train de travailler à la version 2, qui devrait comprendre une interface plus orientée utilisateur, citoyen, afin vraiment d'engager les résidents de Boston dans cette démarche de Smart City. Il est intéressant aussi de noter qu'aujourd'hui même, le City Score est de 1,12, ce qui signifie que Boston va très très bien. Je vous invite d'ailleurs à aller vérifier le chiffre par vous-même sur la plateforme en ligne qui lui est dédiée, cityofboston.gov. Vous pouvez voir le détail de toutes les données qui sont nécessaires à l'obtention du chiffre, disponibles en temps réel, en toute transparence.
Pauline, merci, et place maintenant à la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Il est là et il a sélectionné pour nous des choses sans doute qui vont révolutionner le monde, Antoine.
Oui, certainement. En tout cas, par exemple, je voudrais vous parler d'un drone de livraison, mais c'est un drôle de drone.
C'est un drôle de drone.
Un drôle de drone.
D'accord.
Le drone de livraison, maintenant, c'est assez tendance. Hein. Toutes les grandes entreprises s'y mettent, plus ou moins. Alors, c'est pas l'essentiel de leur logistique qui repose là-dessus, mais enfin, ça vient un peu partout. Le drone dont je voudrais vous parler est un drone bulle.
Bulle ?
Un drone bulle. Alors, d'abord, il est créé par l'entreprise Festo, qui est connue pour prendre des animaux pour modèles. Par exemple, Festo avait créé une mouette, avait créé en fait un drone qui s'appelle le Smart Bird, et qui ressemble terriblement à une mouette. C'est assez beau, d'ailleurs. Il y a des vidéos qui tournent.
Ah oui. Donc un oiseau robot.
Où on peut voir, voilà, l'oiseau robot. On peut voir le Smart Bird. Ça fait assez rêver. Alors là, cette fois-ci, Festo est allé plus loin en imitant non pas un animal, mais la bulle. Alors évidemment, on se souvient tous du feuilleton Le Prisonnier avec ses bulles.
Ah oui, c'est une grosse bulle qui poursuivait les fugitifs.
Voilà, alors là, c'est des bulles beaucoup plus inoffensives.
C'est une bulle.
Et c'est une bulle, oui, voilà. Un bulle, on disait ça pour les vieux ordinateurs.
Oui, mais, ou un bulldozer.
Un bulldozer aussi, voilà. Oui. Voilà. Donc, le drone donc ressemble cette fois-ci à une grosse bulle, mais de ça. Savon, évidemment, il est en réalité bien plus solide. Il permet de récupérer des objets et de les garder en sécurité.
Dans sa bulle.
Dans sa bulle.
Ah ouais.
C'est ça l'intérêt de la bulle. Alors, l'idée, cette fois-ci, c'est en fait beaucoup plus utile que l'oiseau, par exemple, parce que c'est beaucoup plus fonctionnel. Et ça pourrait permettre, par exemple, de remettre des outils à ceux qui travaillent dans des environnements difficiles d'accès ou en hauteur. Vous voyez, genre le type qui est monté en haut d'un gratte-ciel en construction, qui a oublié son tournevis. Donc,
s'il faut. Et l'ascenseur n'est pas encore en route.
Donc, quand il faut qu'il redescende en varap pour aller chercher son tournevis, c'est mieux quand même de lui envoyer un drone bulle.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Alors, il est guidé par GPS, hein, parce que quand même, quand on est drone
bulle,
il faut
qu'il soit précis.
On se respecte, il faut qu'il soit précis. Voilà. Il a 8 hélices, hein, donc.
Oui,
quand même. Donc, ça lui permet de voler dans toutes les directions. Malheureusement, vous ne pourrez pas l'acheter tout de suite puisque sa commercialisation n'est pas prévue là dans les heures qui viennent.
Une autre petite gadgeto pour la route ?
Oui, vite fait, le paquet de cigarettes connectées. Alors,
vous savez que fumais-tu, Antoine ?
Alors, fumais-tu, justement. Donc, l'entreprise Smoking Stopper, donc au moins là, on est clair sur l'intention, propose un paquet de cigarettes connectées qui se ferme une fois qu'on a dépassé le quota de cigarettes quotidien accordé.
Donc, c'est vrai ?
Et il vous délivre.
C'est-à-dire que je programme, je dis 10 cigarettes,
oui.
Je prends mes 10 cigarettes et après, je peux plus l'ouvrir.
Non.
Incroyable.
Et on ne peut pas en prendre plusieurs à la fois quand le paquet est ouvert, parce qu'il pourrait y avoir.
Ça pourrait être des petits malins.
Non. Voilà. Alors bon, tout ça, elle arrive aussi à faire des programmes. La machine vous détermine des programmes de sevrage qui sont personnalisés en fonction du type de fumeur que vous êtes. Ils ont déjà levé 400 000 euros de fonds et ce paquet sera disponible pour la somme quand même coquette de 89 euros à partir de l'été 2016.
Bah écoutez, si ça peut en tout cas réguler la consommation de cigarettes chez certains.
Moi personnellement, je me suis arrêté de fumer il y a presque 20 ans et j'ai arrêté du jour au lendemain.
Bravo.
Sans passer par
tout comme moi, Antoine. Voilà. On a arrêté de la même manière.
Voilà. J'avais essayé avant de me sevrer et ça marchait jamais.
Ça marchait pas.
Et donc, à un moment, j'ai dit non, ben non.
Mais voilà. Voilà. Écoutez, ben voyez, vous avez quand même, vous qui nous écoutez, deux exemples de personnes qui ont arrêté comme ça du jour au lendemain.
Ouais.
Et voilà. Merci, Antoine. On se retrouve tout à l'heure pour le crash test.
Et oui.
Pour évidemment terminer cet atelier numérique. Et vous restez avec nous. La suite de l'atelier dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. La transformation digitale par la data d'un acteur majeur de l'énergie, ERDF. Ce sera dans quelques minutes sur BFM Business avec notre invité. Notre enquête aussi de l'atelier. Dans une minute, on va évoquer les chatbots. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est que les chatbots? Hein? Eh bien, vous serez un spécialiste dans quelques instants. Mais auparavant, notre start-up de la semaine. Avec vous, Lila Megraoua, vous allez tout nous dire sur Allégorithmique cette semaine.
Sébastien Deguy, bonjour.
Bonjour.
Alors Sébastien Deguy, vous êtes, au nom de la société que vous avez fondée, le nouveau visage de la campagne Creative France, un label qui promeut à la fois la créativité et le dynamisme entrepreneurial français. Expliquez-nous un peu Allégorithmique, à partir du nom, d'instinct, je dirais que vous créez des allégories et des algorithmes.
Alors, Allégorithmique, c'est effectivement un mélange de deux choses, c'est un mélange de deux adjectifs. En anglais, qui dit allégorique, effectivement. Autre algorithmique, pardon, qui exprime deux choses différentes, un peu antinomiques, qui sont plutôt de l'ordre de la création artistique avec l'allégorie, de l'ordre des mathématiques avec l'algorithmique. Donc c'était l'idée, effectivement, de... Donc nous, ce qu'on fabrique, c'est des logiciels, donc c'est vraiment beaucoup d'algorithmique, mais à but de création artistique. Donc c'est le côté allégorique. Donc on aime bien cette idée d'être à l'interface des choses.
Au besoin de quel secteur allégorithmique répond? Quels sont vos clients aujourd'hui? Est-ce qu'ils émanent de cet univers, notamment du cinéma, des jeux vidéo?
Oui, exactement. Aujourd'hui, on est très, très présent dans le monde du jeu vidéo en particulier. Les premiers à s'être intéressés donc, à la techno ont été les grands de l'animation, comme Pixar, par exemple. Assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était dans le jeu vidéo qu'on avait la réception la meilleure, finalement, pour les produits qu'on fabriquait. Donc aujourd'hui, effectivement, nos clients, c'est des grands développeurs de jeux vidéo, et la plupart, maintenant, utilisent notre solution. Une solution qui s'appelle Substance. Et donc, Substance est utilisée par Ubisoft, par Electronic Arts, par tous les plus grands développeurs de jeux. Par exemple, un jeu comme Call of Duty, le dernier Call of Duty a été fait en partie grâce à notre technologie, des derniers jeux d'Ubisoft a été fait en grande partie également grâce à nos outils. Le cinéma d'animation et des effets spéciaux un petit peu, on y revient finalement, et on commence à explorer d'autres marchés comme l'architecture, le design. On a des très belles références dont certaines viennent juste d'être publiques, comme IKEA par exemple, avec qui on a travaillé. Donc avec IKEA, ce qu'on a fabriqué pour eux, c'est une expérience nouvelle de réalité virtuelle. L'idée, c'est on se trouve, grâce à un casque de réalité virtuelle, dans une cuisine IKEA, dans laquelle on peut déjà ressentir la présence. C'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est qu'ils veulent explorer des nouvelles façons de ressentir les produits avant de les acheter, évidemment. Et donc pour bien les ressentir, il fallait travailler la matière de façon très aboutie, comme on est les champions de la matière digitale. Et ils sont venus nous voir pour ça, pour essayer de représenter le plus fidèlement possible, en temps réel, dans une expérience de réalité virtuelle, les matières qu'on va retrouver dans une cuisine, les bois, les métaux, parfois des matières organiques. Et donc on a fabriqué cette expérience-là, elle se retrouve sur Steam, là, elle est faite pour le Vive de HTC. Et voilà, donc c'est avec des gens qui ne sont pas dans le monde du jeu vidéo, mais qui utilisent des techniques qui viennent du monde du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, on bénéficie pas mal de ça. L'univers du design et de l'architecture s'intéresse aux technologies qui sont utilisées dans le monde du jeu vidéo, parce que ce sont les technologies les plus avancées. Nous, on vient de cet univers-là, donc naturellement, on bénéficie de ça. Et en plus, comme on est spécialisé dans l'apparence, la matière digitale, en réalité virtuelle en particulier, il y a des besoins de représentation la plus fidèle possible de cette matière digitale pour bien la ressentir vraiment de façon la plus viscérale possible.
Et puis, j'imagine, comme vous disiez, que vous devez énormément bénéficier de l'essor de la réalité virtuelle.
Oui, absolument. Oui. C'est en train d'exploser. Là, j'ai beau le dire ici tout de suite et j'ai beau le raconter depuis plusieurs années, parce que j'ai eu la chance de tester les premiers prototypes il y a depuis longtemps, le cerveau est hacké. Mais vraiment très profondément. Donc les émotions qu'on ressent, elles sont incroyables. Et vraiment, c'est une expérience qu'il faut vivre pour la ressentir viscéralement.
Sébastien Deguy, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes fondateur et CEO d'Allego Rythmique. Merci.
Lila qui est toujours avec nous pour notre enquête de l'atelier. Lila, et on va parler donc de cette révolution, cette tendance des chatbots avec nos invités.
Ou l'avènement, on va le découvrir, du commerce conversationnel.
Exactement.
Alors, le chatbot ou si on souhaite parler français, l'agent conversationnel, vous savez, c'est ce personnage virtuel qui dialogue avec l'internaute afin de l'aider dans sa navigation ou son processus d'achat. Alors le sujet est dans toutes les bouches en ce moment et pour cause, Facebook a annoncé lors du F8 grand rendez-vous, s'il en est de Facebook, se lancer sur le sujet et les intégrer à son Messenger. Alors on a le plaisir d'avoir deux spécialistes en plateau et par téléphone. Frédéric Cavaza, bonjour.
Bonsoir.
Alors Frédéric Cavaza, vous êtes consultant marketing technologiste et auteur du blog fredcavaza.net. Et on a également par téléphone Simon Robich. Bonjour.
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 Alors Simon Robich, vous êtes product manager d'iAdvise. Alors Frédéric Cavaza, on va commencer par vous. Vous vous dites que si Facebook se lance là-dedans, c'est pas anodin, que tout ça annonce une nouvelle vague du web, celui du commerce conversationnel. Alors expliquez-nous un peu ce que vous entendez par là.
Alors en fait, les chatbots, c'est une mode qui revient. De toute façon, la mode est un éternel recommencement. Donc ce sont des outils qui sont utilisés depuis près d'une dizaine d'années sur le web. On en voit notamment sur certains services marchands. Vous avez des petites hôtesses virtuelles qui s'allument pas, et qui sont là pour vous aider.
Et qui ne sont pas de vraies hôtesses, parce qu'on pourrait se dire que derrière, il y a... Non, bah non.
Malheureusement non, ce sont des logiciels en fait qui répondent à des questions prédéterminées. Donc ça fait 10 ans que ça existe. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les internautes passent moins de temps devant leur ordinateur, beaucoup plus de temps sur leur smartphone et encore plus de temps sur les applications de messagerie, dont Facebook Messenger.
Mais donc, qu'est-ce que ça pourrait apporter, les chatbots sur les messageries, genre Messenger par exemple?
Eh bien, on va tout simplement mettre le produit, le service ou la marque là où les mobinautes passent le plus clair de leur temps. On va simplement rapprocher la marque des mobinautes. Voilà à quoi ça sert.
Exemple.
Auparavant, si un annonceur ou si une marque voulait dialoguer ou voulait vendre des choses à un mobinaute, ça se faisait au travers d'une application, application qu'il fallait chercher sur une App Store, qu'il fallait télécharger, installer, paramétrer et ainsi de suite. Là, il y a 900 millions de mobinautes qui ont déjà Facebook Messenger. Mm-hmm. Il leur suffit simplement de chercher le robot de la SNCF, de KLM, de n'importe qui, et de dialoguer directement avec.
Ou un Uber, par exemple.
Tout à fait.
En fait, je vais taper tout simplement, même parler à mon Messenger en disant, voilà, je veux un Uber maintenant, je suis à tel endroit, et tout va être compris, et on va m'apporter mon Uber. C'est ça?
Quasiment. C'est quasiment ça. Disons qu'on y sera bientôt. Là, c'est que le D'accord. début, mais on y sera bientôt.
On peut rêver.
Vous êtes trop ambitieux, François. On est justement.
C'est un peu comme une secrétaire personnelle.
Non. Plus ou moins.
Toutes les secrétaires qui nous écoutent, rassurez-vous, vous avez encore de bien belles années devant vous.
Alors là, on aborde un sujet extrêmement épineux parce qu'en fait, les assistants personnels qui sont dans les smartphones, comme Siri par exemple sur l'iPhone ou comme Google Now sur les téléphones Android ou comme Cortana dans Windows, sont des concurrents des chatbots que l'on retrouve dans Windows Messenger. Donc c'est un sujet sensible.
Ah, d'accord.
Ce sont deux produits concurrents.
Simon Robich, chez iAdvise, vous opérez les chatbots pour KLM qu'on a cité, Voyage SNCF. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est capable de faire à partir de ces chatbots?
Alors KLM, c'est pas encore chez nous. Ils ont travaillé en direct avec Facebook, mais effectivement, Voyage SNCF, pour le coup, c'est bien nous qui avons intégré Voyage SNCF dans Messenger. Et en fait, l'élément le plus important, c'est quand on a travaillé avec eux, c'était que ce soit vraiment pratique pour le voyageur. Donc chez Voyage SNCF, ça leur donne en fait toutes les informations utiles sur leur prochain voyage, le numéro du train, la place dans le train, dans la voiture, ça leur donne accès à leurs billets immédiatement dans Messenger. Et puis après, dès qu'ils ont des questions, s'ils souhaitent changer leur billet, s'ils ont un problème sur leur trajet, etc., ça bascule très vite vers de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout ça n'est pas encore très intelligent, même si on aimerait déjà que ça le soit beaucoup. C'est finalement très très automatisé, et dès qu'on a besoin d'aller dans des détails un peu plus fins, on bascule vers de l'humain, qui peut parfois commencer à entraîner une machine et anticiper un peu de l'intelligence artificielle et des conversations pleinement automatisées, même lorsqu'elles sont complexes, demain. Mais aujourd'hui, c'est encore assez basique lorsque c'est automatisé, et très vite, on bascule vers de l'humain.
Donc, ce que vous dites, c'est que l'humain restera toujours à assister, à valider.
Et aujourd'hui, les bots basés sur l'intelligence artificielle, qui sont les plus ambitieux, tendent vers 20% d'automatisation dans les conversations. Donc, si on le prend dans l'autre sens, il y a 80% des conversations dans lesquelles aujourd'hui l'humain est complètement indispensable. à minima pour entraîner la machine et lui expliquer quelle réponse il faut apporter lorsqu'il a telle question qui lui est posée. Et puis bien souvent aussi parce que il y a tellement de situations possibles qu'un robot ne peut pas toutes les connaître dès aujourd'hui. Et puis le langage évolue, la façon dont on s'exprime évolue, les acronymes, les raccourcis qu'on va utiliser peuvent changer, et du coup un robot ne peut pas les comprendre de lui-même, et donc aura toujours besoin de l'humain pour pouvoir à minima suivre ses évolutions, et puis aujourd'hui tout simplement pour fonctionner, quoi.
On voit que l'intelligence artificielle fait des progrès assez importants d'année en année. Aujourd'hui donc c'est 20%, mais on peut imaginer que ce chiffre évolue, non, dans les années qui viennent.
Alors on peut l'imaginer effectivement, mais c'est pas la courbe d'évolution, elle est pas aussi linéaire que pour la puissance de calcul de l'informatique. En fait, comme c'est basé sur les statistiques et les mathématiques, ça dépend beaucoup de l'avancée des travaux des chercheurs dans ces domaines-là. Oui. Et donc c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on va avancer par à-coup. D'un coup, on va faire une nouvelle découverte et on va gagner en efficacité, les modèles vont être meilleurs, mais on peut très vite aussi avoir un plateau et ne pas évoluer pendant plusieurs années et retrouver de nouveau une évolution et un à-coup dans l'innovation. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui va peut-être rester comme ça pendant 2, 3, 4 ans, et puis on fera une belle découverte à ce moment-là. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet, donc on peut s'y attendre. Mais c'est pas aussi linéaire, et l'évolution n'est pas aussi visible qu'avec l'informatique et la puissance de calcul.
Mais c'est une question de sémantique, en fait, non, j'imagine ?
C'est une question de sémantique, effectivement, de modèle pour entraîner les intelligences artificielles à mieux comprendre ce que peuvent leur dire les humains, et ce, dans toutes les langues. Donc le défi est le même dans chaque langue, il faut reproduire le système dans chaque langue.
Frédéric Cavazza, est-ce que vous pensez dans l'immédiat que les bots seraient les nouvelles applications ? Est-ce que demain, toute marque aura son chatbot ?
On peut l'envisager dans une certaine mesure. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les mobinautes téléchargent beaucoup moins d'applications. Donc là-dessus, on a une croissance, on va dire, qui est limitée. Ce qui est certain, c'est que le mobinaute passe beaucoup de temps dans les applications de messagerie. Donc, tous les éléments sont là pour pousser les annonceurs, en fait, à créer leur chatbot. Mais je ne pense pas qu'il y aura un démarrage extrêmement spectaculaire. Il faudra un petit peu d'éducation pour que les mobinautes comprennent qu'on peut s'adresser directement à Voyage SNCF, à KLM, à AXA, à n'importe qui, à travers Facebook Messenger ou Skype ou d'autres systèmes comme ça.
Et quel est l'intérêt direct pour les marques ? C'est de créer un dialogue beaucoup plus facilement, beaucoup plus direct, régénérer des ventes par derrière ?
L'intérêt, en fait, c'est d'ajouter un canal relationnel à l'arsenal qu'ils ont déjà. Voilà, vous avez des annonceurs qui sont sur l'email, sur le téléphone, qui sont sur le site web, qui sont sur SMS. Ils pourront traiter demain Facebook Messenger ou Skype ou autre. C'est une corde de plus à leur arc.
Simon Robich, chez iAdvise, vous opérez ce type de solution depuis déjà quelques années. De ce que vous observez, ça sert à quoi ?
Ça sert effectivement à deux choses, comme le disait Frédéric, à créer ce nouveau lien avec le client et donc à améliorer l'expérience utilisateur, la satisfaction du client et à lui permettre d'avoir une réponse à ses questions le plus rapidement possible. Et puis bien souvent aussi, ça permet à nos clients de générer des ventes supplémentaires. Pour vous donner deux chiffres, un site e-commerce classique qui n'utilise pas de système de conversation sur son site ou en dehors, fait à peu près entre 1 et 2% de conversion naturellement. Lorsqu'il utilise du commerce conversationnel, soit du chat, du messenger ou autre, le taux de conversion passe à 20% en moyenne. Donc là, il y a un intérêt évidemment hyper important pour les marques d'être en dialogue et de proposer soit des notifications un peu automatisées, comme on a pu le faire avec Voyage SNCF, mais aussi et surtout de l'humain pour venir compléter ces conversations, pour pouvoir avoir une meilleure satisfaction, une meilleure expérience et générer des nouvelles ventes dans la foulée.
Est-ce que il me semble que vous l'évoquiez un peu en début d'entretien. Est-ce qu'on pourrait imaginer de l'autre côté le chatbot suggérer des réponses à un conseiller, par exemple ?
Nous, c'est ce qu'on propose. C'est évidemment l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui nous intéresse depuis quelques années, mais comme je le disais, c'est pas encore suffisamment développé pour répondre de façon complètement transparente et presque humaine aux internautes. Par contre, on s'en sert pour améliorer le service côté conseiller qui répondent aux questions des internautes, et on leur suggère des réponses sur la base des précédentes conversations qu'ils ont pu déjà avoir avec des clients. Et lorsqu'une question revient régulièrement, on va suggérer au conseiller une réponse qui a été pertinente et bien notée par les internautes, les clients, lors des précédentes conversations. Donc c'est une forme d'intelligence artificielle, mais pas suffisamment développée encore aujourd'hui pour la rendre complètement autonome et dialoguer directement avec l'internaute. Mais c'est plutôt un outil supplémentaire pour rendre les conseillers plus productifs et donc apporter un meilleur niveau de service aux clients finaux.
Frédéric Cavazet, quel est votre regard de marketing technologiste sur le commerce conversationnel? Est-ce que quelque part ces chatbots ne seraient pas le chaînon manquant, le levier nécessaire à ce fameux social commerce dont on nous rabat les oreilles depuis déjà quelques années?
Effectivement, ça peut être le chaînon manquant. Sur une boutique en ligne traditionnelle, on a affaire à des photos et des descriptions produits. Donc, c'est intéressant, mais ça va pas très loin. Sur les médias sociaux, c'est encore pire parce que les photos sont plus petites et les descriptions sont encore plus courtes. Peut-être qu'effectivement, avoir un dialogue de vente avec un robot, soit, mais un robot qui quand même fait l'affaire, enfin, qui a une syntaxe qui est, on va dire, intéressante. Pourquoi pas? Ça peut compléter, ça peut enrichir le dialogue de vente et ça peut amener naturellement le consommateur en fait à finaliser son acte d'achat.
Frédéric Cavazet, merci beaucoup, et Simon Robitch également. Merci à tous les deux.
Voilà, et apprêtons-nous donc à vivre avec les chatbots.
C'est ça.
Via Messenger et via d'autres services, évidemment, sur son mobile. Vous restez avec nous dans un instant. On va découvrir la transformation digitale de RDF avec notre invité Elila Megraoua. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants, notre passion selon Sanet. On va évoquer la médecine de précision ou comment, évidemment, avec la puissance de calcul, on arrive aujourd'hui à guérir de maladies très graves. On va parler dans un instant avec nos invités, mais dans l'immédiat, c'est notre webstrat et on va s'intéresser à la transformation digitale de ERDF, Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business. La web stratégie.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va parler transformation digitale avec un acteur majeur de l'énergie. Christian Buchel, bonjour.
Bonjour.
Christian Buchel, vous êtes directeur général adjoint de RDF et également son chief digital officer. C'est dire combien le numérique est pris au sérieux au sein du groupe RDF. Vous êtes intervenu cette semaine au Teradata Universe Conference qui s'est tenue à Hambourg et vous y avez présenté, notamment vous êtes revenu sur votre programme de digitalisation de RDF. Est-ce que vous pourriez nous tracer quels sont les enjeux de la transformation numérique de RDF?
Pour nous, clairement, comme un grand service public français, je dirais pour résumer, l'enjeu principal, c'est d'utiliser toutes les technologies nouvelles, toute la force du digital, toute la force du traitement des données pour rendre un meilleur service public. J'ai l'habitude de dire pour aller vers l'excellence du service public en matière de qualité de service, en matière d'efficacité économique. Et donc, cette transformation digitale est un levier formidable pour y parvenir.
Alors, vous avez mis en place deux nouveaux centres de stockage de données avec la technologie Teradata. Ce sont aujourd'hui à peu près une quarantaine de data scientists qui travaillent chez vous. J'imagine que si vos opérateurs n'ont pas vocation à devenir eux-mêmes des data scientists, la transformation digitale, elle passe également par la sensibilisation, la formation des collaborateurs. Comment on bouge les lignes d'une vieille dame comme RDF?
Alors, je crois que vous avez raison de parler de transformation, parce que aller vers le digital, utiliser les leviers du digital, je crois que c'est d'abord une transformation culturelle, c'est une transformation du mode de management, C'est une transformation des compétences en restant sur nos valeurs. URDF est un service public au service des territoires, au service des consommateurs, des producteurs. Mais effectivement, développer de nouvelles compétences autour de la data science, c'est ça autrement en fait. Hein. J'ai créé une petite équipe autour de moi avec une trentaine de personnes qui sont en capacité maintenant de traiter les données, des données techniques, des incidents réseau par exemple, des données de consommation agrégées, de telle façon à ce que nous développions aussi des algorithmes, des logiciels qui rendent encore plus performant la qualité de service.
Par exemple,
si je prends la transformation digitale, elle est au service de l'efficacité de la gestion des réseaux, hein, puisque RDF, c'est la gestion de 1,3 million de kilomètres de réseaux. Digital, c'est au service de la relation avec les utilisateurs du réseau, consommateurs, producteurs, mais aussi des collectivités locales, les territoires. Si je prends l'exemple des réseaux, hein, donc le traitement de données nous permet de développer de la maintenance prédictive. Donc nous avons créé dans un réservoir de données, comme le data lake en anglais, nous avons injecté l'ensemble des historiques que nous avions des incidents réseau pour voir comment est-ce que le traitement des données, quand il y a un incident sur un poste de transformation, comment est-ce qu'on peut le prédire? Et comment donc les ressources financières que nous affectons à la maintenance, comment elles peuvent être encore mieux utilisées pour être à la fois en capacité d'empêcher l'incident de se produire, parce que on sait quel équipement, on va savoir de plus en plus quel équipement remplacer avant qu'il ne soit défectueux, et en même temps avoir une capacité de gérer ces équipements pour éviter les incidents. Donc vous voyez, le digital, là, il est clairement au service de la qualité de service et de l'efficacité économique. Moins de moyens à mettre sur la maintenance et avec plus d'efficacité.
Vous avez également ouvert une partie de vos données. À quelle fin? Est-ce que l'idée, c'est d'encourager l'innovation chez des acteurs externes?
Alors d'abord, l'ouverture des données se fait toujours de façon agrégée, hein, de telle manière à ce que l'agrégation de plusieurs milliers de consommateurs protège complètement la donnée privée. Hein. Donc quand on parle d'ouverture des données, on le dit avec responsabilité, hein, en protégeant bien sûr les données individuelles. Et donc oui, vous pouvez aller aujourd'hui sur le site de RDF, il y a un accès web direct sur l'open data qui permet par exemple à de grandes collectivités locales ou à des territoires, dans une région, dans un département, d'avoir accès sur des échelles de temps de l'année. Hein, donc ça protège vraiment la donnée privée puisque c'est une agrégation de beaucoup de milliers de clients et aussi sur des périodes longues, mais de voir quelle est la consommation, quelle est la production, et de telle façon que, vous l'avez dit, à la fois les territoires aient des outils pour piloter leur transition énergétique. Donc ils ont à disposition des données qui leur permettent de mener leur politique de transition énergétique, et en même temps l'innovation, effectivement, puisque c'est des données que vous pouvez télécharger avec des normes standards, permet aussi à l'innovation peut-être de proposer de nouveaux services, de proposer des nouvelles façons de combiner des données d'énergie avec des données climat, avec des données transport, avec, je dirais, une gamme de données dont l'agrégation la permet effectivement de définir de nouvelles possibilités pour les clients et pour les territoires.
D'où, j'imagine, la création de la fabrique numérique de RDF.
Vous êtes très bien renseignée, madame. Donc effectivement, RDF a mis en place une fabrique numérique dans laquelle il y a ses collègues qui, effectivement, qui sont plutôt des gens qui viennent des fonctions analytiques, qui viennent de la science, des statistiques aussi. Aujourd'hui, on les appelle les data scientists, mot pas très joli en français. Mais en fait, ERDF avait depuis plusieurs années déjà, dans les différentes directions, dans les différents métiers, des gens qui traitaient les statistiques. Et en mettant la place à la fabrique numérique, effectivement, nous avons voulu donner une nouvelle impulsion pour aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans l'exploitation des données au service de l'excellence de nos prestations.
Dites-moi un peu, en 2016, accompagné de Teradata, quels seront les grands chantiers en matière de Big Data pour RDF?
Alors juste, vous avez évoqué Teradata, nous avons mis en place on va dire une infrastructure de stockage de données et de traitement, processing dans le métier, donc effectivement avec un partenaire que vous venez de citer. L'enjeu maintenant que nous avons en place cette infrastructure, C'est de permettre l'innovation autour du traitement des données. Donc nous mettons en place autour du stockage de données ce que nous appelons des laboratoires, des labs, des laboratoires de traitement de données pour que chaque métier, le métier d'ingénierie, le métier de la maintenance, j'en ai parlé, les métiers autour de la prévision de consommation, que l'ensemble des métiers de RDF puissent travailler en mode laboratoire sur ces données de façon à en permanence, améliorer qualité de service et efficacité économique.
Christian Buchel, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes directeur général adjoint de RDF, également son chief digital and international officer. Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant. Passion selon Sanette dans quelques minutes. Et puis notre dossier de l'atelier US, juste après. À tout de suite.